soir, on va essayer de clore ce cycle de conférences qui dure quand même depuis 3 ans, puisqu'on avait abordé il y a 3 ans les genres de la littérature orale pour finir ce soir avec littérature orale et illettrisme. Donc ça fait un gros cycle, ça fait à peu près une trentaine de conférences. Donc c'est un cycle qui se clôt. Je ne sais pas ce qu'on fera encore le prochain, on va essayer de continuer, mais pas sur les mêmes thèmes bien sûr. Et peut-être de travailler davantage sur des types de contes ou sur d'autres espaces. Mais en tous les cas, on essayera quand même de prolonger un petit peu ça. Donc le thème de ce soir, c'est comment la littérature orale peut aider des personnes dans la problématique de l'illettrisme, donc dans la lutte contre l'illettrisme. Alors c'est assez étonnant de l'envisager tel que, puisque la littérature orale est un objet de l'oralité et pas de l'écriture. Voilà, donc on va essayer de voir comment ça peut permettre à des personnes en difficulté de revenir à l'écriture. Alors déjà, il faut peut-être définir ce que c'est que l'illettrisme, rapidement peut-être, parce que vous savez tous un peu ce que c'est. On dit que l'illettrisme, ce sont la plupart du temps des gens qui ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne savent pas écrire, ils ne la maîtrisent pas pleinement. On dit souvent que ce sont des personnes qui ont été au moins 5 ans à l'école, donc d'autres beaucoup plus d'ailleurs, mais qui quelque part ont eu des métiers, ont eu des moments de problématiques individuelles ou autres qui ont fait que bon, bah, ils ont lâché prise sur l'écriture, ils ont oublié. Ils ont eu des métiers par exemple qui ne leur ont pas du tout, les ont pas amenés à avoir un entraînement dans l'écriture ou la lecture, c'était pas... ou ce qu'ils sont dans des problématiques économiques, sociales, etc. aussi, qui peuvent les rendre inaptes à retrouver cette pleine écriture et cette pleine lecture. Alors en France, ça touche beaucoup de monde, on est à plus de 20% de personnes considérées comme illettrées en France, à des niveaux différents. Une fois de plus, on ne peut pas tout mettre dans la même masse. On dit qu'il y a par exemple 1% des jeunes adultes qui sont vraiment... limite de l'analphabétisme, c'est-à-dire qu'ils arrivent tout juste à tracer quelques lettres, mais qui n'ont plus du tout les codes, qu'on a 3% qui ne dépassent pas la lecture d'un mot isolé, 3%, c'est quand même important, qu'on a 4% qui sont dans la limite d'une lecture simple, d'une phrase simple, qu'on a quand même 12% de gens qui ne sont pas capables de lire au-delà d'un texte relativement court et simple. Et puis, heureusement, on a quand même 80% de gens compétents dans la lecture. Donc, on est quand même sur ces 20% de personnes qui sont en difficulté, en tous les cas, d'aller vraiment assumer la lecture et l'écriture. Donc, ça pose des sacrés problèmes. On en retrouve, par exemple, une grande partie de ces personnes-là. Quand on regarde les personnes incarcérées, par exemple, et qu'on essaie de voir, on a les personnes incarcérées qui sont en prison, on a plus de 30% d'illettrés. 30% de ces personnes qui sont dans l'illettrisme. Donc on est bien dans un élément qui va poser problème dans nos sociétés, c'est-à-dire qu'on est dans des sociétés où l'écriture et la lecture va être extrêmement importante, parce qu'ils vont être toutes les deux extrêmement importantes, parce que bon, on est des sociétés de l'information écrite, on a des consignes, n'importe quel travail aujourd'hui, on va vous demander de lire des fiches techniques, de remplir des papiers, c'est-à-dire que quelqu'un qui est illettré va se trouver très vite en difficulté. C'est pas pour ça que les illettrés sont sans emploi. Les gens qui travaillent, et qui travaillent très bien, ça ne pose pas de problème. Et surtout, ce que je tiens à souligner, c'est pas parce qu'on est illettré qu'on est inculte. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont très cultivées d'une certaine façon, c'est-à-dire qui ont un grand savoir sur le monde, mais qui ne savent pas lire et écrire. Il faut penser qu'il y a même des personnes analphabètes dans ce cas-là. On l'a vu beaucoup en littérature orale. On a des savants analphabète. Dans certaines sociétés, l'écriture n'est pas obligatoirement quelque chose qui est mis en avant. Donc les raisons sont multiples, et c'est pour ça que ça pose problème de pouvoir lutter contre l'illettrisme. C'est qu'il y a des raisons sociales qu'on peut repérer, mais c'est tout un côté systémique, c'est des systèmes. Et chaque personne, chaque cas est presque un cas singulier dans cet échec-là. Donc ça pose des problèmes parce qu'on ne peut pas normaliser une lutte contre l'illettrisme. On est presque obligé de travailler au cas par cas. C'est-à-dire que chaque personne va avoir ses raisons d'être illettrée. Il y a bien des choses un peu convergentes, mais ce n'est pas toujours évident. Donc on est vraiment sur des espaces de difficultés déjà au niveau même de, je vais dire, de trouver une recette. Il n'y a pas de recette. Il y a la prise en compte de chaque individu comme cas particulier et voir comment on peut l'aider à ce niveau-là à rentrer, à revenir un petit peu dans la compétence de l'écrit. Hein. Alors, on va souvent mettre le tout sur le dos de l'école, hein, parce que ça, c'est souvent là qu'on se dit « mais il manque quelque chose, il y a quelque chose qui s'est loupé à ce niveau-là ». Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'enfants qui vont avoir des difficultés très tôt dans leur apprentissage. Hein. Des enfants qui vont être très vite dans la difficulté à coder, décoder, à être dans des espaces, et puis qui vont traîner ça, on va dire. On a de plus en plus de sixièmes qui arrivent avec des incompétences de lecture et d'écriture. Hein. Ça devient de plus en plus flagrant. Donc on sent bien qu'il y a un problème d'apprentissage, mais on va dire que ce n'est pas que l'école qui pose problème. L'école essaye à sa façon de mettre les choses en place. Mais à côté de l'école, il faut voir qu'il y a des enfants qui sont des fois dans des familles où socialement, économiquement, c'est extrêmement difficile, qui sont dans des grandes fratries où ce n'est pas évident d'aller à l'école. Mais il y a aussi des enfants dans cette condition-là qui vont très bien se débrouiller, hein, qui vont très bien s'en sortir aussi. Voilà. Mais en tous les cas, on a des cumuls de conséquences comme ça qui font que petit à petit, on a des personnes qui vont se perdre un petit peu dans cette compétence, dans ce retour à la lecture et à l'écriture. Alors le gros problème qu'on va avoir, c'est que plus ces personnes vont s'enfermer dans cette incompétence, plus la motivation va se perdre. Plus elles vont se trouver aussi en difficulté de faire sens avec le groupe normatif de l'école. Hein. Et plus elles ont tendance à se replier dans des espaces de marginalisation. Hein. Ça pose d'autres problèmes. C'est-à-dire que, pareil, hein, on est reconnu pour ses compétences dans des groupes qui ont une compétence. Donc si on n'a pas celle de l'écrit, il va falloir en inventer une autre, parce qu'on ne peut pas vivre sans identité, d'une certaine façon. Hein. Donc on va s'apercevoir qu'aussi il va y avoir des marginalisations souvent fortes de ces personnes qui vont se retrouver des fois dans des groupes en marge vraiment du code normatif, hein, et des valeurs normatives. Donc tout ça, c'est un espace que bien sûr on essaye de combattre hein, depuis pas mal de temps. C'est devenu une priorité nationale. Si ce n'est que ben, avoir des compétences pour travailler là-dessus, ça demande une grosse, grosse formation, parce que ce n'est pas évident du tout. Il faut être déjà un peu doué en psycho, il faut être doué un peu en éducation, il faut être un peu... Donc on a beaucoup de bonne volonté, hein, et ça c'est ce qui ressort de la plupart des colloques que j'ai pu me rendre, c'est qu'il y a des cœurs gros pour lutter comme ça, mais on a du mal à trouver des formations pour créer des gens compétents dans cette problématique, hein. Donc on est encore avec des grosses difficultés pour le combattre réellement. Alors là aujourd'hui, moi je vais vous ramener à une notion de l'oralité, c'est-à-dire pourquoi quelque part on va rechercher l'oralité. Parce que déjà dans l'ontologie de la langue, dans l'apprentissage de la langue, ça fait partie de quelque chose de naturel. On commence d'abord par l'oral avant d'arriver à l'écrit. Et logiquement, jusqu'à la maternelle, on a encore une attention... grande section de maternelle, on a encore une attention à la qualité de la langue orale. Et puis, bizarrement, dans notre cursus, à partir de 5-6 ans, on se dit que la langue orale doit être acquise, donc pas de problème, on laisse tomber, on passe à l'écrit. Voilà. Ça, pour les gens qui sont dans des sociétés de tradition orale et qui toute leur vie, jusqu'à leur plus grand âge, jusqu'à un âge très avancé, étudient la langue, ils ne comprennent pas trop, parce que la langue orale est aussi complexe que la langue écrite. On va voir que ce n'est pas tout à fait les mêmes codes, mais que l'écriture est quand même quelque chose de la dépendance de la langue, hein, même si, bien sûr, c'est autre chose que la langue orale. Donc, nous, le travail qu'on a essayé de mettre en place au CMLO, elle est venue de deux constats. C'est que, il y en a un, c'était un monsieur qui, on peut lui rendre hommage ce soir, c'est un grand monsieur, c'est Sodiki Kouyaté, qui vient de décéder il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, qui est un grand comédien qui était dans l'équipe de Peter Brook, hein, qui était griot à l'origine, hein, et qui est aujourd'hui des enfants conteurs, qui sont de merveilleux conteurs, et qui est arrivé en France presque illettré, même presque vraiment illettré. Hein, il savait un petit peu tracer, mais guère plus. Quoi. Et dans l'affaire de rien de temps, il a appris le français, lu, écrit, hein, plus l'anglais, puisqu'il a même joué aux États-Unis en anglais. Donc en rien de temps, et quand on lui posait la question, mais comment t'as fait hein, mais disait, mais moi je ne savais pas écrire et lire, mais depuis l'âge de 3 ans, et quand il est venu en France, il en avait 40, j'apprends ce que c'est qu'une langue. Et c'était intéressant de se dire, la compétence d'analyse de ce qu'est une langue peut servir à l'écrit. Moi j'ai entendu ça dans ce qu'il me disait. Après, on verra comment ça va revenir là-dessus. Et un deuxième point, c'est quand on fait du décryptage avec certains conteurs. C'est-à-dire que les compteurs, vous savez, on les enregistre et puis on décrypte au mot à mot, en gros, dans un premier temps, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui est dit en fond. Là, on s'aperçoit qu'il y a des compteurs qui sont illisibles dans le décryptage. C'est-à-dire que c'est vraiment pas de l'écriture, loin de là, c'est loin de la littérature. Et puis il y en a d'autres, il n'y a presque rien à toucher. Et pourtant, pour la plupart, ils sont tous les deux illettrés, la plupart du temps. Donc, qu'est-ce qui se joue Et c'était les deux questions qui nous ont un petit peu intéressé et interrogé. Alors, déjà, il y a la question à se poser sur notre langue orale. C'est quoi l'oralité? Celle qu'on pratique tous les jours, on va dire que c'est une oralité pragmatique, fatigue, comme on dit, c'est une oralité qui nous sert à communiquer. Voilà. On n'y est pas très attentif à terme. C'est une oralité qui est improvisée, qui n'est pas travaillée. Donc celle-là, on s'y est peu intéressé, même si on s'y intéressait quand même un petit peu, mais ce n'est pas tellement celle-là qui va nous intéresser, mais c'est une deuxième forme d'oralité qu'on appellera, et qu'on appelle en général au niveau linguistique, l'orature, c'est-à-dire une oralité qui est le parallèle à la littérature, une oralité qui cherche à faire œuvre, une oralité qui en plus n'est pas un objet inventé, mais un objet transmis parfois depuis plusieurs millénaires. Donc on a là quelque chose qui est extrêmement structuré, extrêmement travaillé, qui cherche à faire œuvre, qui cherche à faire style, donc qui cherche une qualité de langue. Et la plupart du temps, les gens qui travaillent dans cette oralité font ce qu'on appelle du métalangage, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent sur la langue qu'ils pratiquent. Et donc on a là une forme parallèle à l'écriture qui devient intéressante. Donc, quelque part, on a essayé de s'interroger là-dessus au travers du travail des conteurs. On s'est dit, mais comment ils font pour travailler sur une langue sans l'aide de l'écriture? Puisque les conteurs, bien sûr, ne pratiquent pas l'écriture. Ils transmettent des récits. Et on s'aperçoit que la plupart du temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'un conteur écoute un autre conteur. Je parle de la tradition, je ne parle pas d'aujourd'hui, on y reviendra plus tard. Mais dans la tradition, il écoute un autre conteur. Ce qu'il va faire, ce qu'il va d'abord très vite repérer, la structure du récit. C'est-à-dire, ce qu'il va repérer, ce n'est pas le récit en lui-même, c'est tous les points principaux du récit qu'il va mémoriser. Dans une tradition orale, le conteur, il peut très vite vous re-raconter l'histoire sans aucun problème. Pour les ethnologues, d'ailleurs, c'est un point de repère et défini comme conte ce qui peut être re-raconté presque de suite après, en tant qu'espace narratif. C'est-à-dire qu'il y a un objet de la mémorisation. Et à partir de là, il va faire ce qu'on appelle une composition de variantes, c'est-à-dire qu'il ne va pas raconter ce que l'autre conteur racontait, il va raconter sa façon de voir ce récit, mais ce sera toujours le même récit. Et là, il va partir sur un élément qui est intéressant pour nous, on va y venir après, c'est ce qu'on appelle l'image mentale. C'est-à-dire que lui, ce qu'il va faire dans sa tête, dans un premier temps, c'est l'image, c'est une carte du conte. Et les conteurs, quand on les interroge sur comment ils mémorisent des contes très longs, qu'ils peuvent des fois raconter pendant plusieurs heures, ils ont dans leur tête une carte extrêmement précise. Ils peuvent la dessiner. Souvent, d'ailleurs, au Québec, il y a Viviane Labrie, qui est une grande anthropologue, qui a fait ça avec une quarantaine de conteurs traditionnels, et chaque fois, ou avec un bâton ou autre, ils dessinaient au sol la carte du conte. Ce qui fait que dans un seul coup d'œil, ils ont tout le conte cartographié, avec le repère des où apparaissent les personnages, le temps qu'il y a entre les éléments. Donc on est bien vraiment déjà dans les principaux critères du narratif, l'espace-temps. Tout objet narratif passe par ces deux critères-là. Et déjà on s'aperçoit que savoir compter, c'est savoir repérer une structure narrative. C'est un premier élément extrêmement important. L'image mentale qui va se greffer là-dessus, c'est quoi? C'est-à-dire qu'après, sur chacun de ces points de repère, on va se faire des images qui doivent être cohérentes l'une vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que si on commence l'hiver, on ne pourra peut-être pas immédiatement, s'il y a 3 jours plus tard, passer à l'été. Donc l'image va être très contrainte par la cohérence du récit. Et ça, c'est déjà un élément extrêmement important aussi, puisque l'image mentale va nous aider à, comment dire, à mettre du vocabulaire. Donc on va être dans quelque chose qui va solliciter le lexique. Parce que l'image mentale, on a souvent parlé ici, n'est pas une image plate d'écran. C'est une image en 3 dimensions. Mais c'est surtout une image qu'on doit nourrir à partir des 5 sens. C'est-à-dire quelqu'un qui veut travailler, un compteur qui travaille une maison, je pense moi cet exemple parce qu'il est simple, il va faire le tour de la maison, compter les fenêtres, rentrer dedans, mais il va surtout commencer à se dire qu'est-ce qu'il y a comme bruit autour et dans la maison, quelle odeur il y a, si je touche les pierres c'est quoi. Donc il va se recomposer une réalité perceptive au travers des images que lui impose le compte. Et ça, dès qu'on travaille sur des sens autres que la vue, parce que dans le monde occidental on est très branché sur la vue, ça sollicite tout un vocabulaire qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Tout le vocabulaire qui est en relation à l'odeur, au toucher. Et en plus, le compteur va travailler aussi sur une part de ce qu'on appelle la conscience kinesthésique, c'est-à-dire comment le corps bouge, comment on va décrire un corps. Hein, ou comment son corps, en tous les cas, a besoin de voir comment l'autre corps intérieurement bouge pour que son corps lui-même se mette à témoigner de tout ça. Donc tout ça, ça veut dire quelque part, déjà dans ce travail-là, même pour des personnes illettrées, on fait ce qu'on appelle on va régénérer le dictionnaire mental. C'est-à-dire qu'on sait très bien que pour quelqu'un qui est souvent en difficulté d'illettrisme, il se retrouve souvent dans des groupes où on utilise très peu de vocabulaire. Il va utiliser 2500, 3000 mots. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'a que ce vocabulaire. Parce qu'il trempe aussi par la télévision, par d'autres éléments, sur des endroits de vocabulaire beaucoup plus riches, mais qu'il ne pratique pas. Là, d'aller solliciter des images qu'il n'a pas l'habitude de narrer, va l'obliger à retourner à ses autres mots, parce que souvent, il va se retrouver très vite bloqué dans sa limite de vocabulaire habituel. Hein. Voilà. Donc, je vous dirai après un peu les techniques, comment on travaille, parce qu'il ne le fait pas tout seul. Hein. Il va falloir l'aider, bien sûr. Voilà. Donc tout ça, on s'aperçoit que le travail de composition est un travail extrêmement complexe pour le compteur. D'ailleurs, les compteurs vous diront que symboliquement, il faut au moins 9 mois pour faire un compte. Des fois, il en faut beaucoup plus. Hein, c'est-à-dire pour compter une histoire, il faut l'intégrer, la composer image par image, cette espèce de cinéma intérieur qui devient... C'est-à-dire que Pierre Jacques Elias disait pour raconter un conte, il faudrait l'avoir rêvé au moins 3 fois. C'est-à-dire que quand le conte se déroule intérieurement, presque sans accroc, voilà, que toutes les images commencent à devenir justes, on met les mots dessus, mais pas avant. Hein, c'est-à-dire que des gens comme Michel Hindenock vous interdiront, si vous faites une formation avec lui, de mettre des mots tant que quelque part, vous n'êtes pas capable de marmonner votre histoire de façon cohérente. Donc tant que vous n'avez pas fait les images intérieures de façon cohérente. Hein. Voilà, donc tout ce travail nous a servi surtout à se dire, bon, maintenant, comment on va aider quelqu'un et qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui est en problématique d'illettrisme. Bon, il a une difficulté pour passer au signe. Il a une difficulté, souvent on s'aperçoit qu'il va avoir des mots qui sont imbriqués les uns dans les autres, des fois. Il a du mal à faire la césure entre les mots. Hein. Il va avoir des problématiques d'orthographe extrêmement graves, des problèmes de syntaxe. Hein. Donc on se dit comment essayer de déjà faire ce qu'on appellera du métalangage. C'est-à-dire, quels sont les éléments qu'on peut l'aider à analyser dans l'oral pour que quand il va passer à l'écrit, il y ait déjà des endroits d'acquis. Parce que quand on parle un petit peu avec eux, on s'aperçoit surtout que la plupart de ces personnes ont utilisé les règles grammaticales comme des lois sans faire sens avec la loi. C'est-à-dire qu'ils avaient souvent une mémoire qui n'était pas trop mauvaise, donc ils voyaient très bien comment il fallait faire, mais ils ne comprenaient pas pourquoi il fallait faire comme ça. Et quelque part, bien sûr, ça, c'est quelque chose qui est très mauvais pour la mémoire et pour l'intégration. Si on utilise la mémoire courte pour pratiquer un exercice, en général, si on ne la pratique plus, l'exercice, pendant quelques temps, on perd complètement les acquis. Donc, quelque part, c'est comment redonner sens à toutes ces règles, et déjà avec l'oral et en parallèle avec l'écrit. Donc je dirais, c'est comment faire traverser physiquement la règle grammaticale, le lexique, les cohérences. Alors, il y a des choses toutes bêtes, hein, des petits exercices tout simples. On peut déjà proposer à quelqu'un, dans un premier temps, de nous raconter comment il est venu de chez lui jusqu'à le lieu où se trouve l'atelier, par exemple. Alors, au début, vous allez avoir des choses extrêmement simples qui sont de l'ordre. Moi, je suis descendu de chez moi, j'ai pris le bus de 8h45 et je suis arrivé à 9h30. Voilà, ça, c'est la narration base qu'on a souvent, c'est-à-dire les choses extrêmement simples. Voilà, c'est pour lui, ça suffit. Et on s'aperçoit que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il va juste donner les quelques points repères. Si on commence à poser des questions en lui disant « Oui, mais chez toi, c'est comment ? T'as pris un petit déjeuner avant de partir ?» Et qu'on commence à rentrer dans ce qu'on appelle les techniques du questionnement. Tes escaliers, t'es au quel étage ? Si ton arrêt de bus, il est où ? Sur quel boulevard ? Est-ce qu'il a un nom, ce boulevard ? Ou cette rue ? Et que petit à petit, on commence à nourrir le récit avec des mots. On s'aperçoit que d'entrée, on commence à travailler avec des qualificatifs, on commence à travailler avec des espaces grammaticaux qui vont se mettre en place tranquillement, que quelque part, il y a des rythmicités, il y a des ponctuations qui se mettent en place. Et au bout d'un moment, on va nourrir un récit et on peut déjà travailler là tout un lieu de la cohérence et de la composition sans faire trop d'efforts, ça va assez vite. On peut très bien déjà commencer à jouer sur des temps grammaticaux. Si c'était hier, comment tu me le raconterais ? Si c'était demain, tu me le raconterais comment ? Et à chaque fois qu'on sent qu'il y a des endroits phoniques, des endroits de sonorité qui changent, qui bougent, les pointer. Et déjà, on est dans une application. Ça n'empêche pas à côté de pouvoir, au tableau, commencer à pointer des choses. Mais en tous les cas, c'est vous qui écrivez dans un premier temps, ce n'est pas très grave. Mais en tous les cas, on commence à mettre une expérience physique sur un espace graphique visuel. Et parler, justement, c'est ça qui est important, c'est que c'est avant tout un exercice physique, parler. C'est les poumons qui jouent, c'est une vibration intérieure, vos côtes vécues. Et le corps a une mémoire extrêmement importante et extrêmement efficace. Mais souvent, cette mémoire n'est pas sollicitée. C'est une mémoire qui est informelle, c'est une mémoire qu'on laisse glisser. Donc faire du métalangage, c'est déjà pouvoir faire ces raccords entre la conscience de la traversée de la parole dans le corps et commencer à mettre des éléments du signe à côté. Alors je ne dis pas que c'est de l'écriture, mais on est déjà en train d'éclairer des espaces. On peut très bien travailler sur les pluriels, on peut très bien travailler. Si vous commencez à faire une liste, vous allez voir que c'est extrêmement riche déjà tout ce qu'on peut travailler sur un tout petit récit. Si on est vraiment dans le systématisme. Alors bien sûr, ça, c'est pas de la littérature orale, c'est pas de l'orature, c'est ce qu'on appelle le récit de vie, donc ça fait pas partie de ces matières-là. Mais petit à petit, ce qu'on va essayer de glisser, c'est justement la fiction. Et là, c'est très simple, c'est que ce petit récit qu'on vient de faire avec lui, on va faire quelque chose qui est souvent difficile pour la personne, c'est simplement passer du « je » au « il ». On ne met plus « je », mais on met « il ». C'est-à-dire qu'on se met dans une distance. Et ça change déjà complètement l'implication et on passe déjà dans un récit distancié par rapport à ça. Donc c'est déjà une conscience aussi de l'espace fictionnel qui va pouvoir être composé à partir d'un simple changement de catégorie. Donc on est vraiment dans un espace déjà qui va bouger. Et ensuite, après, on peut travailler sur des récits un peu plus complexe de la tradition orale en faisant ce que font les conteurs, c'est-à-dire recevant une trame, puisque ce qu'il nous a fait le matin, c'était une trame. Voilà. Donc on reprend par exemple un conte facétieux, un conte à rire ou un petit conte de sagesse. La trame est mémorisable dans l'affaire de 10 secondes, 30 secondes. C'est vite fait. Et là-dessus, on peut commencer à retravailler, à nourrir cet espace au travers de la langue. Ce qui est important, c'est que la plupart autres défauts qu'on va souvent reprocher aux personnes illettrées, c'est que quand ils ont, dans la catégorie qui sait déjà un peu décrypter, qui sait un peu écrire, on leur dit vous écrivez comme vous parlez. Parce que quelque part, si on discute un peu avec ces personnes, qu'est-ce qui se passe ? Ils considèrent que ce qu'il faut écrire, ce sont les mots énoncés. D'accord ? Lorsqu'ils vont faire, ils vont écrire les éléments qu'ils diraient. Voilà. Mais ils oublient une chose, c'est que dans la communication orale, tout ce qui sort de la bouche, les mots, leur qualité, l'intonation, etc., c'est 40% de la communication. Il en manque 60. Il en manque 60%. Où c'est qu'ils sont ? Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un langage non-verbal qui est extrêmement puissant quand on est dans la relation directe. C'est-à-dire qu'on parle d'abord avec sa mimique avant de mettre des mots. C'est quelqu'un, quand vous discutez avec lui, il n'y a pas de problème. Et en plus, on est dans un espace contextuel qu'on n'a pas à exprimer, puisqu'il est là, il est présent. Et le bon écrivain, qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il va y penser à ça. Il sait très bien que quand il écrit, ce qui sort de la bouche n'est pas suffisant, qu'il va falloir compenser ces 60% de communication en moins. Là, je reste dans l'espace narratif. Parce qu'après le roman, ça serait encore autre chose, même si c'est souvent de la narration, mais en tous les cas, on est dans un espace un peu différent. Mais en tous les cas, pour le conte, cet espace du non-verbal est extrêmement important. Donc déjà, le travail de faire prendre conscience de tout ce qu'on raconte sur une mimique, sur une gestuelle. Voilà. Et je dis bien faire prendre conscience, ça suffit, c'est pas besoin de faire des gros exercices, mais comprendre qu'on a déjà une part de notre langage extrêmement puissant, au-delà des mots. Et puis commencer à se dire, ça, comment je vais le décrire ? Comment je vais en faire part ? Alors, les personnes illettrées ont aussi ce chic, c'est que on voit pas immédiatement qu'ils sont dans l'illettrisme, puisque bon, ils parlent normalement, ils sont des gens intelligents, souvent cultivés d'une certaine façon, parce que des fois ils essaient de compenser aussi leur manque par des espaces très encyclopédiques ou dans des intelligences de société. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ce qu'ils vont vous parler, et ils vous regardent. Et si vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une grimace. Donc systématiquement, ils comprennent très vite que vous n'avez pas compris, ils reformulent. Et petit à petit, ils vont arriver à trouver cette communication. Demander à une feuille blanche de faire des grimaces, ça n'en fait pas. C'est-à-dire que là, il faut passer à une technicité. Donc, il y a tout un jeu aussi de cette relation qui doit être pris dans la conscience. C'est-à-dire que, quelque part, il va falloir que celui qui lit, je ne serai pas là, en plus, souvent, quand il va lire. Donc, il faut vraiment que, ça soit, que tout soit pris en compte. Donc, cette simple conscience, souvent, ça va faire des progrès, je ne dis pas en orthographe ou... mais dans la formulation de l'écriture, de l'écrit. Ça sera encore maladroit. Mais en tous les cas, il y a des tentatives là, de compenser cet espace de non-communication. Donc petit à petit, on va arriver comme ça à avancer dans la conscience des règles. On va arriver à mettre des mots sur des objets. On commence petit à petit à savoir ce que c'est un sujet, un verbe. On commence à savoir ce que c'est qu'un temps. On y revient. Donc on arrive à faire ce qu'on appelle du métalangage et de comprendre progressivement comment une langue se forme. Et là, on va commencer à faire la différence avec l'écrit progressivement. On va travailler, par exemple, sur la langue orale, on peut très bien travailler sur la notion de ponctuation. La langue orale n'est pas ponctuée comme l'écrit, mais elle est ponctuée malgré tout. Il suffit, par exemple, moi je vais travailler ça même avec des stagiaires qui ne sont pas illettrés du tout, mais... simplement de signaler le fait que quand un nouveau personnage arrive, c'est très important de laisser à un moment donné un petit bout de silence pour que la personne ait le temps de se le représenter. Alors, c'est pas de suite après le personnage, mais dans l'endroit où il apparaît, par exemple, il était une fois dans une forêt, une jeune fille qui était là, et puis est arrivé un ours. Et l'ours, intérieurement, on le regarde des pieds à la tête. Et cet espace de silence est une ponctuation d'oral. Mais ça veut dire que dans une phrase, on va pouvoir immédiatement... dire, bon, où est-ce qu'on va mettre la ponctuation dans la phrase ? Donc on va déjà s'amuser à repérer qu'est-ce que c'est une phrase possible, une cohérence. Mais si on l'a dans l'oral et dans l'écrit, ça accélère vraiment la compréhension de tous ces espaces de ponctuation. Pareil, une fois de plus, partager, faire travailler l'espace expérimental physique et le regard autour. Ensuite, ça veut dire que c'est quoi de continuer comme ça ? On pourrait aller très loin, parce que je n'aurai pas le temps de tout vous donner, il faut que je parle d'heure d'ailleurs. Le côté de la lecture, ça va être un peu la même chose. Il faut penser que la littérature orale, il y a une clé aussi qui est extrêmement importante, c'est qu'on connaît le tout du récit avant de travailler dans du détail. C'est-à-dire quelqu'un qui va travailler sur un conte, il a déjà entendu ce conte. Une fois, deux fois, trois fois. Hein. Donc il connaît toute l'histoire. Et le moindre détail qu'il va travailler, il sait la répercussion que ce détail a sur la globalité de l'histoire. Alors que souvent, quand on fait écrire des enfants, on leur demande d'inventer une histoire. C'est extrêmement complexe. Parce que ça veut dire qu'eux, au fur et à mesure, ils sont obligés de tenir compte de ce qu'ils sont en train de créer pour créer des logiques. Hein? Donc là aussi, le fait que quelqu'un d'illettré, vous lui fournissiez une histoire dans son ossature minimale et qu'il n'ait plus qu'à l'habiller, il n'a pas le souci de structurer la globalité du récit. Et donc, il peut s'attacher et se concentrer sur la langue. Il peut vraiment aller très très loin dans cet espace de correspondance. Il sait très bien que l'image, si elle n'est pas bonne, ça ne va pas servir l'histoire. Il va très vite comprendre qu'il y a des images de trop dans son histoire, des choses qui ne sont peut-être pas nécessaires de garder en tant que telles. Donc, ce tout pour le détail. Et ça, ça peut s'utiliser, je dirais, même avec des noms illettrés, sur des expérimentations de lecture des textes complexes, par exemple. Alors, je ne sais pas, j'en ai déjà parlé ici, mais travailler sur des épopées, des grandes épopées que les enfants ont du mal à lire, et ils ont du mal parce que souvent on leur fait apprendre un tout petit bout, un tout petit morceau d'épopée. Et quand on va voir les gens dans la tradition, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ben, Laëd, il savait quel morceau il allait raconter ce jour-là, parce qu'il ne racontait jamais le tout, mais il résumait d'abord tout le tout. Il faisait d'abord s'il devait raconter l'Odyssée, il allait raconter les 24 chants d'abord. Ça prend, en gros, résumer l'Odyssée par les 24 chants, ça va prendre à peu près 10 minutes. C'est pas long de lire les résumés des 24 chants. Mais on a une espèce d'idée globale du cycle. On sait que quand on est chez Circé, il va aller plus loin dans le pays des morts. On sait qu'avant, il a vu. Donc, quelque part, quand on va travailler sur le détail, ce qu'on entend, c'est tout à fait différent que si ça avait été isolé. Parce qu'on a aussi toutes les relations dans la globalité qui se mettent en place. Voilà. Donc cette notion, pour moi, elle est importante avec les illettrés parce que c'est une façon aussi de les amener à lire d'une certaine façon. C'est-à-dire que quelque part, ils vont peut-être avoir du mal à déchiffrer, mais le fait de savoir dans quelle globalité ça se situe, si on lui a résumé l'histoire, ça sera déjà nettement plus facile pour lui. C'est-à-dire que les mots ne vont pas être uniquement des mots vides. Ces mots ont déjà un sens préalable. Donc le gros problème de la lecture, après, c'est ça, c'est que souvent, le fait qu'ils ne soient pas capables d'associer les mots entre eux, souvent très mal, voilà. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'ils vont lire les mots isolés. Et chaque mot isolé un à côté de l'autre ne dit pas grand-chose. Une phrase isolée ne dit pas grand-chose dans un texte. D'accord ? Si des gens en arrivent, ne serait-ce que faire la synthèse d'un paragraphe et de refaire lire oralement, j'entends, et de commencer à faire lire des bouts du paragraphe, normalement, il y a du sens qui devrait se mettre en place beaucoup plus rapidement. Je ne dis pas que c'est miraculeux, mais progressivement, on arrive à accélérer le processus parce qu'il sait ce que la phrase peut signifier à terme. Voilà. Donc tout ça, c'est des outils. Il faudrait avoir beaucoup plus de temps pour aller plus loin. Donc cette notion de sémantique, là, c'est plus de la syntaxique, c'est de la sémantique, c'est-à-dire de lire, pour moi, c'est trouver du sens avant tout. C'est trouver le plaisir, c'est pas déchiffrer. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème de l'illettré, souvent, c'est qu'il déchiffre. C'est avant tout un mauvais déchiffreur, même des fois. Donc faire du sens quand on déchiffre, c'est presque impossible. Donc quelque part, c'est l'aider dans un premier temps, en tous les cas, à motiver sa lecture en l'aidant à trouver le sens de ses récits dans un premier temps. Donc les lexiques, là c'est pareil, si on a beaucoup fait travailler sur le lexique et le dictionnaire mental avant, quand il va se mettre à la lecture, il y a des mots aussi qui ont été acquis. Le gros problème, c'est que quand on travaille dans le quotidien avec 3000 mots, n'importe quel bouquin, on va être très vite dépassé. Parce que ce n'est pas les mots en plus qu'on va utiliser qui sont là. Donc si en plus on n'a pas de préparation à la lecture en ayant mis du sens sur les mots, souvent on va buter très vite aussi dans la lecture. Voilà, donc tout ça c'est un espace, on pourrait travailler même sur l'orthographe à ce niveau-là, etc. Il y a vraiment des clés qui sont tout à fait possibles, là c'est un peu plus complexe. Donc en gros, moi je dirais que premier boulot c'est réveiller dictionnaire mental, lexique, Hein, et ça, c'est assez facile. Ça, c'est des phases relativement aisées, on va dire. Hein. Deuxième point, c'est toute l'importance du non-verbal. Ce qu'on disait, c'est-à-dire comprendre que le corps est extrêmement signifiant et que quelque part, ces corps signifiants, ben, ils sont aussi à compenser dans l'écrit. Hein. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec les compteurs. Pourquoi on a des compteurs qui sont illisibles quand on les transcrit et pourquoi il y a des compteurs qui sont très facilement lisibles? Parce que les compteurs qui ne sont pas lisibles, ils se servent énormément de leur corps. C'est souvent des gens qui sont debout, qui bougent, qui expriment énormément avec le faciès. Hein. Et puis les gens qui sont relativement lisibles, qu'est-ce qu'ils font? Ben souvent, ils sont presque dans une concentration intérieure, ils ne bougent presque pas. Hein, donc ils n'ont presque pas de signaux non-verbaux qui se génèrent. Donc c'est vrai qu'ils sont obligés de se concentrer davantage sur la langue. Hein. Et ils vont avoir quelque chose qui sera beaucoup plus facile à transcrire, parce que déjà, il y a une préparation de cette cohérence-là. Hein. Ils vont tenir compte du fait qu'ils ne s'expriment pas avec le corps. Donc l'importance du non-verbal, bien sûr, qui est extrêmement importante, les capacités de l'oral après à détecter les unités linguistiques et grammaticales. Hein, on va parler de la notion de qu'est-ce que c'est qu'un mot, qu'est-ce que c'est qu'une phrase, tout ça, ça peut se faire dans l'oral, hein, assez facilement. Qu'est-ce que c'est qu'un paragraphe, qu'est-ce que c'est qu'un verbe, un sujet, un adjectif. C'est autant de choses qu'on peut faire repérer assez facilement. Si on n'est pas trop prétentieux dans le texte donné, si on prend des textes relativement courts, on peut vraiment faire ce métalangage dans l'oral. Et petit à petit, ça devient vraiment quelque chose qui se joue en place. Hein. Par exemple, de pointer le fait que ben, y a des féminins qu'on n'entend pas dans l'oral. Comment on va les pointer à l'écrit, hein. Pourtant, il existe. Comment on le repère, hein. Voilà. Comment on repère, comment on trouve ces cohérences-là. Dans l'oral, on peut complètement commencer à travailler ça. La notion des temps, voilà, les singuliers, les pluriels, les articles, tout ça, c'est tout un métalangage qu'on peut vraiment préparer dans l'oralité avec de temps en temps retour au tableau pour que ça soit repéré aussi sur l'écrit, hein, l'écho. Après, si on a la chance d'aller plus loin, ça je dirais qu'après ça dépend beaucoup du nombre de séances qu'on va avoir avec ces personnes-là. Si les personnes prennent goût et reviennent, c'est fabuleux. Parce que du coup, on peut aller beaucoup plus loin. Et là, on va pouvoir entrer dans tout un autre jeu qui est, par exemple, la notion de gérer les métaphores. La métaphore qui est un objet du poétique par excellence. Donc la littérature orale nous offre plein d'objets comme ça, super intéressants. C'est la devinette, par exemple. La devinette est un objet métaphorique par excellence. Donc si vraiment vous avez des objets comme les devinettes, vous allez vraiment trouver des choses très faciles. Hein. Moi j'en prends souvent une que vous connaissez par cœur maintenant, mais que j'aime beaucoup, parce qu'elle est très signifiante. C'est blanche prairie, noire semence, cinq bœufs tirent la charrue, qui suis-je? Blanche prairie, noire semence, cinq bœufs tirent la charrue. Alors, blanche prairie, noire semence, qu'il y a dedans? Cinq bœufs tirent la charrue, donc c'est l'écriture. D'accord? Donc on est vraiment. Les devinettes sont magnifiques, si vous voulez, parce qu'elles nous obligent à gérer la métaphore tout le temps. On est toujours en train de refaire des images, c'est-à-dire qu'on décale l'objet en tant que tel. Si on joue avec des personnes illettrées au niveau de la devinette, ils vont très vite saisir les enjeux. Hein. Que ce n'est pas qu'un objet de l'écriture, la devinette, c'est même des sujets d'oralité par excellence. Hein. Dans le monde berbère, il y a des concours de devinettes, il y a ce qui s'appelle le timsal, où c'est des villages qui se confrontent, hein, sur des devinettes. Donc c'est une maîtrise de la langue qui se joue au travers de ça. Hein. Si vous travaillez sur les virlangues, par exemple, hein, vous allez aussi aller très vite dans des espaces de maîtrise de ce qui est presque déjà l'orthographe. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? On sent bien qu'on a des mal de prononciation. Ça, elle est très gentille, ça va pas, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si vous commencez à mettre une note qui dit six fus, six doigts, un douze, c'est combien, c'est comment? Six doigts, six fus, un douze, un doigt sur le trou du fur. Il ne faut pas que je fourche. Voilà. Mais quelque part, on sent très bien que si on fourche, des fois c'est à une syllabe près, c'est un espace, on s'aperçoit que les mots peuvent changer très vite de sens. Hein, et on peut jouer comme ça sur la fragilité des mots et sur la motivation à l'orthographe. C'est-à-dire que là, on peut commencer à écrire et se rendre compte, bien sûr, que quelque part, ben, il suffit de l'écrire autrement pour que ça devienne autre chose. Hein, et qu'il ne faut pas glisser de grand-chose pour que ça perde son sens. Voilà. Donc, que des objets qui peuvent vraiment nous aider à faire sentir la nécessité de l'orthographe. Pour beaucoup de gens, ils ne comprennent pas pourquoi il faut se compliquer la vie à écrire comme ça. Voilà. Donc là, on peut petit à petit leur énoncer des choses qui sont vraiment... La règle n'est pas inutile. La règle est pour aller plus loin dans le sens. Gros problème qu'on va avoir avec les illettrés, c'est ça, c'est toujours cette notion de motivation. Et d'une, ils sortent souvent de circuits où ils ont été extrêmement malmenés dans leur difficulté à écrire. Moqués, c'est vraiment des fois une honte pour eux. Se remettre en confiance là-dessus, c'est extrêmement complexe. Il y a des enquêtes qui ont été faites en prison, par exemple, il y a des jeunes qui ne sont pas illettrés, mais qui vont refuser de lire, parce que quelque part, pour eux, le livre, c'est le symbole de leur échec scolaire. Voilà. Et ils vont refuser tout ce qui touche au livre. Donc on est vraiment dans des espaces où des fois, il y a des rejets extrêmement forts, et donc retrouver cette motivation, ce n'est pas évident du tout. On a des gens qui, des fois, viennent une séance... Deux, et surtout les gens jeunes, la plupart du temps, les plus jeunes, ceux qui ont entre 20 et 25, 26 ans en général, ils sont tellement reconfrontés à leur échec scolaire qu'ils ne résistent pas. Les gens plus anciens reviennent, parce que quelque part, ils essayent de s'accrocher à tout prix. Voilà. Mais les plus jeunes ont du mal à se reconfronter à cet espace-là. Voilà. Donc si on leur donne des outils où il y a un peu de ludique, où il y a un petit peu de plaisir, où il y a du travail de création, de créativité, ce qui est le cas avec le travail du compteur, on peut aller déjà beaucoup plus vite dans la motivation, en tous les cas. Après, si on a encore le temps d'aller plus loin, on va dans les contes merveilleux, qui sont vraiment la complexité même de la langue orale. C'est vraiment des objets extrêmement complexes et qui manipulent surtout un objet qui est aussi extrêmement difficile pour toute personne, parce qu'on est tous illettrés quelque part, c'est la manipulation du symbolique. Et là, on est souvent très étonné, parce qu'il y a des personnes illettrées qui ont eu une culture orale relativement forte et qui vont avoir une compétence sur le symbolique absolument fabuleuse. On est souvent débordé d'ailleurs. Mais ça veut dire que quelque part, on va leur donner des clés aussi extrêmement fortes pour le passage, parce qu'ils ont une compétence dans ce domaine-là. Je pense par exemple des gens dans des situations interculturelles et qui arrivent de tradition orale. Par exemple, des gens qui arrivent du Maghreb ou qui arrivent d'Asie et dans lesquels il y a eu une tradition orale transmise encore relativement forte. Voilà. Souvent, ils ont un répertoire extrêmement important, mais qu'ils n'osent plus dire parce que quelque part, ils ont peur que ça les situe dans un espace qui n'est pas le bon. Dès qu'ils sentent que c'est possible, dès qu'ils sentent qu'ils ont là une compétence, ça crée une dynamique et une motivation superbe. Et c'est souvent des gens qui vont tirer le groupe derrière eux. Voilà. Mais c'est un espace voilà, où là, le symbolique prend aussi beaucoup de place. Donc tout ça, ça va nous aider progressivement. Alors je dirais qu'après, là, on est vraiment dans la lutte contre l'illettrisme, avec des personnes qui sont repérées comme telles. Et puis on a les mêmes outils qui peuvent servir à la prévention à l'illettrisme dans les classes, par exemple. Parce que là aussi, on a des gamins qui ont énormément de mal aujourd'hui avec cette langue française qui n'est pas évidente pour eux. Alors, elle n'est pas évidente à double titre, parce que je crois que derrière tout ça, il y a aussi des raisons sociologiques extrêmement importantes. Donc, dans les raisons sociologiques, il y a déjà le fait que, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les sociologues qui observent aujourd'hui la façon dont on apprend les choses, c'est qu'on a presque inversé un processus d'apprentissage et que l'éducation nationale n'en prend pas trop compte, prend pas trop compte cette mutation. C'est qu'on s'aperçoit que les jeunes aujourd'hui, ils ont tendance à grappiller des informations sur le monde entier au travers de la toile, pour revenir à quelque chose d'unitaire un peu plus tard. Alors que dans la tradition, qu'est-ce qu'on faisait? On partait quelque chose de local pour aller vers le monde. On a inversé les flux du savoir, d'une certaine façon. Voilà. Donc quelque part, dans la motivation à apprendre de façon traditionnelle, il y a des choses qui sont extrêmement en réticence vis-à-vis de toute une population qui a fondé des centres d'intérêt, non pas sur des choses trop locales, trop nationales même, je dirais, mais plutôt sur des ouvertures extrêmement larges. Donc ça veut dire qu'on a des espaces à combler dans tous ces endroits-là. Donc tout ça, et puis après, ça veut dire aussi que quelque part, des gens qui vont se marginaliser, et ça, c'est aussi beaucoup de choses qui se jouent aujourd'hui pour différentes raisons, socio-économiques, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que souvent, ils vont chercher, comme tout être, un lieu de reconnaissance. C'est-à-dire que l'estime de soi, ne passe pas uniquement par une décision individuelle, mais par la reconnaissance des autres. Et la reconnaissance, elle passe par tout un système normatif de valeurs. Voilà. Et souvent, ben, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne se reconnaissent pas et qui se reconnaissent pas dans les valeurs que l'enseignement propose. Hein, parce que quelque part, ils sont tellement marginalisés qu'ils vont fonder ce qu'on appelle des systèmes tribaux, où les valeurs sont dans des micro-groupes. Hein, voire la langue qu'on doit parler pour être reconnu doit se démarquer complètement de la langue officielle. Et on a progressivement certains jeunes qui s'enferment dans des autosuffisances linguistiques et qui arrivent dans des classes de français, presque dans des langues de français langue étrangère, quoi. C'est plus leur langue. Parce que déjà, idéologiquement, ils sont presque contre, hein, cette langue-là. Donc on a aussi des problèmes. Alors, je ne dis pas que c'est général, je dis que c'est assez marginal, mais ça arrive aussi, on le trouve, ce type de choses, hein. Donc là, on rentre dans d'autres problématiques, hein, c'est des enfermements identitaires qui peuvent poser des sacrés problèmes après pour trouver du boulot, pour trouver. Hein, ça crée vraiment des grosses problématiques d'adaptation, on va dire, hein, en tant que. Voilà. Donc on a tout ça dans les problématiques. Et puis dernière problématique, c'est l'interculturalité. C'est-à-dire que là, attention, on n'est pas obligatoirement dans des illettrismes. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas la langue qu'on est illettré. Il y a un travail d'adaptation. Mais c'est quelqu'un qui a appris à écrire dans son pays va s'adapter très vite à une autre langue écrite. Hein. Voilà. C'est pas la même chose que si quelqu'un est déjà illettré dans son pays, qu'il arrive dans un pays où il devait être encore illettré. Hein. Donc tout ça aussi, c'est autant de phénomènes que dans cette problématique d'illettrisme, on va avoir à trouver. En tous les cas, ce que fait la littérature orale, souvent, c'est qu'elle va proposer des récits, et on l'a déjà vu la dernière fois en pleine interculturalité, qui font des ponts entre les cultures. Des récits comme Cendrillon, il y a à peu près 3000 versions qui existent dans le monde. C'est pas difficile de trouver une mémoire de quelqu'un sur un Cendrillon quelque part. Et même s'il ne comprend pas la langue, il entend plus ou moins le sens, il comprend le sens qu'il y a derrière. Hein, donc il va lire le non-verbal, et du non-verbal, il va pouvoir passer à du sens, parce qu'il connaît l'histoire. D'accord? Donc tout ça, c'est des endroits qui relient, qui font pont entre les cultures, et dans des situations interculturelles, ça peut devenir aussi extrêmement intéressant comme matière. Voilà. Donc après, au niveau de la prévention, très intéressant, moi j'ai eu plusieurs expériences comme ça sur des collèges, avec des classes de sixième. Comment, quelque part, donner goût à la composition orale pour glisser vers l'envie d'écrire. Donc là aussi, on peut très bien prendre un récit. Moi, le principe que j'ai souvent en pédagogie, hein, c'est d'arriver de ne pas raconter l'histoire, mais de donner qu'une trame. La trame de Jean de l'Ours que j'aime bien utiliser, par exemple, avec des sixièmes, ou même des grands LEP. Hein. Ça se mémorise dans une séance d'une heure. Dans une heure, tous les élèves sont capables de raconter à minima l'histoire et de se la transmettre. Et à partir de là, on commence à tisser l'histoire, à développer chaque image, à la travailler, donc à dilater au maximum l'image. Et ça se peut faire deux, trois séances de travail. Donc, quelque part, on sait très bien qu'on ne va pas tout raconter. Mais on a des images qui deviennent de plus en plus précises. Et quand on a tout dilaté, on se dit maintenant, avec combien de mots, avec le moins de mots possible, est-ce qu'on peut dire le maximum d'une image? Et là, on va rentrer dans un vrai travail, dans des vrais paris, qui sont pour moi des paris littéraires. C'est-à-dire qu'on voit très bien tout ce qu'il y a derrière et quels sont les minima de mots qui vont dire le maximum de tout ce qu'on a vu. Et on arrive là à une qualité poétique, souvent, qui est assez intéressante. Et ça, les gamins qui arrivent à toucher à ça, on les voit rentrer dans un état jouissif de la création, ce qui est génial, parce que si c'est le cas, eux, en général, ils ne deviendront pas illettrés. C'est-à-dire les gamins qui commencent à mâcher les mots, vous savez, avec plein de plaisir à ponctuer, à mettre des espaces de rythmique, qui commencent à avoir des figures poétiques comme ça qui viennent, où on le sent vraiment un regard qui s'allume, pas de problème. Eux, ils sont partis, ils ont compris ce que c'était que d'écrire et de dire, d'une certaine façon. Hein. Voilà. Donc, pour conclure, parce que le temps passe vite, et puis j'aimerais bien que vous puissiez poser des questions, parce que je suis sûr que vous avez des cas peut-être particuliers. Moi, ce qui m'intéresse dans ce processus, c'est de ramener la langue à un état plein. C'est-à-dire que c'est un peu aberrant dans notre société qu'on ait survalorisé l'écrit à côté de l'oral. J'ai l'impression qu'on a fait une langue boiteuse, d'une certaine façon. C'est-à-dire que quelque part, on est dans un endroit où l'équilibre n'est pas bon. Pour moi, il y a de l'intelligence des deux côtés. Si on veut vraiment être compétent en oralité et en écriture, il faut que la compétence, elle soit des deux côtés. Il faut que le sens et le méta-langage soient pleins d'un côté et de l'autre. C'est un jeu d'écho, c'est un jeu de complément. Et je crois que ça, on a intérêt de ne pas abandonner l'oral en cinquième, quoi. En cinquième, grande section de maternelle, pardon. C'est-à-dire que vraiment, il y a vraiment toute une intelligence de la langue orale à continuer à travailler en permanence. Hein. Et malheureusement, en classe, on fait une grosse confusion aussi, c'est qu'on travaille beaucoup l'oralisation et pas beaucoup l'oralité. L'oralisation, le texte est premier. C'est-à-dire pour moi, lire à haute voix, c'est pas de l'oralité, c'est de l'oralisation. Jouer une pièce de théâtre, c'est pas de l'oralité, c'est de l'oralisation. Parce qu'il y a un texte qui précède. D'accord ? Quand on est dans l'oralité, c'est qu'on a juste une trame, puis à nous de composer sans l'aide de l'écriture, avec des images, avec un corps en présence, hein, dans une performance. Voilà. Donc on est vraiment dans des enjeux très différents. Et la pleine intelligence se joue dans ces enjeux-là. Hein. Si vous faites travailler l'oralisation, c'est autre chose. Je ne dis pas que c'est négatif, c'est bien. Mais on est dans encore autre chose. C'est encore une autre étape, mais ce n'est pas pour moi de l'oralité en tout cas. Hein. C'est autre chose. Voilà, en tous les cas, bon, j'ai essayé de vous faire un résumé du résumé. Hein, en trois petits quarts d'heure. J'espère qu'il y aura des questions. On va essayer de continuer.
C'est un travail en romain.
C'est un travail qui n'est pas si titanesque que ça. On peut arriver à faire entre 10 et 12 séances. On arrive à avoir des résultats tout à fait intéressants avec des adultes. Hein. Voilà. Et sur le plan de la prévention, on arrive à faire un travail... sur deux trimestres, on va dire, on arrive à faire un très beau travail où des gamins... moi, je parle toujours de cette expérience que j'ai eue sur Gilgamesh, hein, sur le collège de Cesnon à Montpellier. Bon, le pari, c'était de faire apprendre, enfin, de faire apprendre, de faire lire une épopée à des enfants. Voilà, et c'est donc, ils avaient choisi Gilgamesh parce qu'ils voulaient la lire à des terminales à Béziers qui faisaient aussi le même travail. Donc, avoir un travail d'enjeu de confrontation au bout. Voilà. L'illettrisme. Oh non, je pense que de toute façon, on a beaucoup progressé, malgré tout. Il faut penser qu'il y a, début de siècle, on avait plus de 30 à 40% de la population qui savait tout juste signer au bas d'une page, parce que quelque part... Moi, je crois qu'il y a surtout le fait que notre technicité nécessite aujourd'hui des gens lettrés. À l'époque, il suffisait d'avoir des bras, hein. On n'avait pas besoin de savoir lire et écrire. Donc, il suffisait d'être là, d'être présent, d'avoir une qualité, une intelligence. Hein, voilà. Mais on n'avait pas besoin d'écrire. Aujourd'hui, on a besoin d'écrire où qu'on aille. On est vraiment confronté à l'obligation de passer par l'écrit. Moi, je fais beaucoup d'enquêtes depuis longtemps sur le monde rural. Moi, je rencontre encore des tas de gens qui sont complètement illettrés, qui se font lire le journal et qui ne se leur ont pas empêché de faire leur vie, comme on dit. Hein. Donc, c'est pas... Moi, je dirais que c'est pas qu'une problématique récente, c'est le fait que vraiment la technologie demande à ce qu'on ait des gens compétents dans la lecture et dans l'écriture. On ne peut pas faire autrement. Le moine magasinier aujourd'hui, il faut qu'il sache remplir une fiche, il faut qu'il fasse son inventaire, il faut le moine chauffeur a besoin de faire ses fiches de compte rendu. Voilà, donc on est dans cette nécessité de la compétence écrite. Puis à l'époque, on ne recensait pas beaucoup l'illettrisme, hein, ça ne se fait pas depuis si longtemps. Le recensement lui-même se fait depuis une vingtaine d'années. Il a commencé. Hein. Donc on ne savait pas combien il y en avait exactement. Ben ça, si vous relisez des articles de l'époque, justement, sur passage à l'école obligatoire et tout, vous allez voir qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient illettrées pendant qui ça n'a pas si longtemps, hein, qu'on a ce recensement. Et aujourd'hui, le recensement se fait au niveau du service obligatoire des 3 jours, où tout le monde passe. Donc là, on fait des tests et on arrive à prendre à peu près la température, on va dire, de l'illettrisme. Non, non, il y a des femmes aujourd'hui qui sont obligées de le faire aussi. Donc c'est une population générale qui est systématiquement testée.
La différence entre l'illettrisme et l'analphabétisme.
L'analphabétisme, c'est quelqu'un qui n'a jamais écrit. C'est quelqu'un qui ne sait pas carrément mettre les codes en place, qui ne sait pas
reconnaître les lettres.
Hein?
Il ne sait même pas reconnaître.
Non, il ne sait pas reconnaître les lettres non plus. Il y a vraiment un vide sur tout ce qui est de l'ordre du graphe. Donc c'est une autre complexité. L'illettrisme, c'est vraiment des gens qui sont passés par l'école, qui ont déjà écrit. Donc on n'a pas cette difficulté à tracer. Hein. C'est-à-dire qu'ils savent tracer très mal, souvent, mais ils savent le faire. Ils savent mettre des mots en place, ils sont très mauvais en orthographe, ils sont très mauvais en expression, des fois, mais en tous les cas, en cohérence, mais ils savent en tous les cas un minima de choses sur l'écriture. Pas suffisamment pour socialement s'en servir. Quoi.
CMLO, ça veut dire quoi?
Centre méditerranéen de littérature orale.
Est-ce que c'est ancien, c'est récent?
Ça a 16 ans.
Ça a 16 ans.
Ça a 16 ans. Donc ça dépend ce qu'on appelle ancien. Voilà, c'est presque deux fois, presque deux décennies d'existence.
Littérature
orale, c'est un oxymore officialisé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un un jour qui a rajouté oral à littérature parce qu'il justement il avait des récits qui étaient quand même d'une sacrée beauté et qui se répétaient, voilà, mais qui étaient dits par des gens illettrés, donc il ne pouvait pas dire que c'était la littérature. Hein. Mais il y a une université à Paris 7, où il y a une chaire de littérature orale. Donc ça a été complètement officialisé et c'est un terme scientifique qui est très utilisé aujourd'hui.
Alors, dans l'alphabétisation de personnes immigrées, il y a deux problèmes. Il y a en même temps l'apprentissage de la langue française, mais souvent ce sont des personnes qui également sont illettrées.
Donc, alphabétisation ou illettrisme
Non, c'est en même temps, quand il s'agit pour les adapter, par exemple, à la France, en même temps de leur apprendre et à écrire et à lire. Alors, il y a, je sais que dans certains cas, on utilise comme méthode. Une concrétisation par un atelier cuisine, par exemple. Mm-hmm. On va demander à la personne d'apprendre des recettes de son pays et donc qui va avoir à s'exprimer, déjà, mm-hmm. normalement, et puis ensuite, éventuellement, d'écrire les mots correspondant à la recette.
Il y a deux difficultés. Là, je rentre dans un autre domaine, parce qu'on est dans l'alphabétisation. Hein. C'est souvent des gens qui n'ont jamais écrit. Moi je dirais qu'un des gros problèmes, hein, c'est une doctorante qui avait son doctorat d'ailleurs sur les ateliers d'alphabétisation, qui nous disait un des gros problèmes, c'est qu'on demande souvent à la personne de revenir à l'état d'infante, c'est-à-dire de revenir au B, A, bas. Alors que souvent c'est des personnes qui ont une capacité à penser le monde extrêmement puissante, hein, c'est-à-dire qu'on a des vrais philosophes voilà, qui sont là des fois, et on ne se sert pas de leur intelligence pour entrer dans cette nouvelle phase, voilà. Et que dès qu'on commence à rentrer dans cette reconnaissance d'un savoir acquis, ça accélère le processus extrêmement rapide. Parce que quelque part, la grosse souffrance d'une personne qui ne possède pas la langue, c'est que souvent elle est prise pour quelqu'un d'idiot, parce qu'on ne la comprend pas. D'accord ? Donc quelque part, c'est terrible, parce que quelque part, c'est peut-être quelqu'un qui, dans son pays, avait une reconnaissance incroyable, et là, elle se retrouve du jour au lendemain sans plus rien. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne dans sa communauté, parce que c'est là qu'on va l'entendre, c'est là où elle va être reconnue. Hein. Et c'est quelqu'un qui va avoir énormément de mal à s'intégrer. Donc cette notion de pouvoir, même s'il faut passer par un traducteur, essayer d'écouter la personne dans son intelligence, dans sa pleine intelligence, et d'essayer de voir comment on peut se servir de ça pour passer au code, plutôt que de revenir à des choses très basiques, très enfantines. Hein, donc c'est pas le béaba en tant que signe. C'est surtout que souvent les choses qu'on va prendre comme exemple sont souvent tirées de vieux livres de classe Voilà, donc ça les ramène à un état vraiment pas très fort au niveau de leur estime de soi, quoi. C'est une régression, c'est pas un état de... Donc ça peut vraiment freiner des fois, voire même des personnes qui ne reviennent plus parce qu'ils se sentent très mal dans cette régression. Donc tout ça, c'est l'analphabétisme, c'est encore autre chose, hein. C'est un outil de... Mais pareil pour l'illettrisme, on peut avoir des gens illettrés, comme je vous disais, qui ont vraiment des très grandes capacités de réflexion sur le monde. Et c'est pas parce qu'on est illettré, c'est pas une maladie, hein. C'est un état de non-cohérence avec le social, quoi, avec la norme sociale, on va dire. Hein. Donc là, tout ça, c'est des choses où il faut être très vigilant, c'est l'humain. Hein. C'est pour ça que je disais en début, attention, chaque cas est singulier. La personne, on ne sait pas la blessure qu'elle porte quand elle arrive dans un atelier. On ne sait pas où c'est qu'elle en est de sa relation au monde. Hein. Donc, c'est de gérer que c'est une des phases les plus complexes, c'est d'estimer où est-ce qu'il faut commencer avec la personne. Si on est trop dans le systématisme, dans des espaces comme ça, on a des codes, on a une mallette à outils, voilà, mais on ne sait pas trop comment on va l'utiliser exactement, parce qu'on ne sait pas les personnes qu'on va avoir, où elles en sont. On l'a vu, je vous l'ai donné en introduction, il y a des gens qui sont à... Il y a 1% qui ne sait pas du tout même déchiffrer deux mots. Hein, puis il y en a d'autres qui vont savoir déjà déchiffrer un peu. Tout ça, on les met dans la même valise, c'est tout illettré. Hein. Voilà, on a des gens qui peuvent déjà, dans les illettrés, savoir lire un peu, écrire un peu, hein, écrire pour eux déjà. On a des gens qui savent remplir des fois des papiers à minima, qui savent écrire une lettre très mal, mais le faire. Voilà, donc ça ne sera pas les mêmes que ceux qui ne savent pas du tout énoncer une phrase. Et des fois, on a tout ça dans le même groupe. Donc c'est là que la complexité va souvent arriver. C'est qu'on ne peut pas travailler de la même façon avec tout le monde. Il va falloir s'adapter systématiquement à la qualité du groupe. Hein. Voilà.
Juste une question sur les formateurs.
Oui.
Parce que tu disais que si on prend pour avoir fait les stages avec Kim Denoc, ça pose le formateur de compteur. Nous apprend l'orature à parler en tant que conteur, à produire cette parole-là, c'est pas évident, ça prend quand même beaucoup de temps.
Tout à fait.
Donc, c'est souvent, pour avoir travaillé dans une association qui lutte contre l'illettrisme, les formateurs sont bénévoles, de très très bonne volonté, mais ils ne sont pas formés.
C'est ce que je disais au départ.
Il faut d'abord que l'on se forme soi en tant que formateur. Est-ce que tu pourrais juste un petit peu développer, parce que tu dis qu'il faut des capacités en éducation, voire en psychologie. Peut-être en linguistique, au moins quelques notions, et même en tant que conteur. Alors, est-ce qu'on peut faire ça en binôme? Est-ce qu'il y a des choses comme ça?
Ben nous, on a mis en place une formation, mais qui n'est pas en trois quarts d'heure, qui est en trois semaines, déjà.
Ah, oui,
voilà. Et dans lequel on a une première semaine où on travaille sur la linguistique, c'est comprendre ce que c'est que la langue orale, parce que c'est déjà, souvent, les gens ont appris, même quand ils ont de compétences, à travailler sur la langue écrite, mais ils ont très très peu de connaissances sur les cadres qui font la langue orale. On a une deuxième semaine où on travaille sur les outils du conteur, donc sur la littérature orale. Et la troisième semaine, on travaille sur des ateliers de rapprochement entre l'un et l'autre. Hein. Les gens qui viennent là sont souvent des gens qui ont déjà plus ou moins de la pratique. Ils sont soit déjà dans des ateliers, soit des gens, voilà, quelqu'un par exemple en ce moment qui est dans un milieu carcéral, voilà, donc qui a l'habitude de travailler dans ce domaine-là dans des situations tout à fait précises. Soit des gens qui ont été linguistes, soit des gens qui sont profs de l'EP, voilà. Donc on est déjà avec des gens qui sont aussi dans des compétences d'entrée. Hein. Voilà. Après, moi je dirais que c'est comme tout outil, c'est pas parce qu'on les connaît qu'on sait s'en servir, c'est de l'expérience hein, qui va aller avec, mais au moins qu'il y ait un minima. C'est-à-dire que moi j'étais sur un colloque à Montpellier il y a 2 ans de ça, où il y avait une sociologue qui avait fait une enquête hein, sur les ateliers d'illettrisme, etc., sur tout ce qui se jouait. Et c'est elle qui disait, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des cœurs comme ça, quoi, mais la compétence, elle n'y est pas. On s'en sort pas, parce qu'on tourne en rond. Les gens n'ont pas, ils ont tendance à imposer. C'est des gens qui sont souvent, ou des anciens enseignants, je n'ai pas de critique contre les anciens enseignants, mais c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que là, ça demande un autre endroit. Donc ils vont essayer d'appliquer des codes qu'ils connaissent bien, mais qui ne s'appliquent pas du tout aux gens qu'ils ont en face d'eux. Voilà, donc on a tendance à avoir énormément d'échecs sur cette lutte parce qu'il n'y a pas de gens formés. Alors ça vient, hein, il commence à y avoir des formations de plus en plus précises dans ce domaine-là. Le fait que maintenant les sous-préfectures de région soient officiellement chargées de ce côté-là, ils ont organisé aussi des réseaux. Hein. Voilà, donc il y a aussi des contrôles qui se mettent en place un petit peu, pas pour arrêter le frein, mais pour pour estimer, en tous les cas, évaluer les compétences. Voilà. Donc ça, je pense que c'était nécessaire, de toute façon, à un moment donné, il faut... C'est des gens en fragilité, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec non plus. Ça serait pas... ce serait même dangereux, hein. Voilà. Mais après, ce que tu disais avec Michel Houdenocq au niveau de la compétence, moi, je crois qu'il ne faut pas confondre non plus la compétence d'un conteur, qui a besoin de faire un travail artistique, donc d'aller très loin dans sa démarche sur la langue, et la compétence dont a besoin un animateur qui lui a besoin de l'intelligence sur la chose pour progressivement utiliser ses outils. C'est deux choses extrêmement différentes. Hein, c'est-à-dire que si on crée du sens déjà, lui, en rodant petit à petit sa mallette, il va trouver ses adaptations, il va trouver ses endroits, mais il faut qu'il comprenne bien déjà le processus, en tous les cas, pour qu'il puisse faire sien. Il ne faut pas qu'il soit conteur, c'est ce que je veux dire.
Oui, mais c'est une question, parce que c'est souvent ce qu'on demande aux artistes, que ce soit en théâtre ou ailleurs, dans l'éducation artistique. Et parfois, alors, il y a des artistes qui aiment ça, qui aiment bien partager ça, puis il y en a plus.
Mais les artistes sont souvent de très mauvais animateurs.
Oui, hein, ouais, ça c'est clair. Pas leur fonction.
Donc, mais par contre, il faut être capable de décrypter leur travail pour voir en quoi il peut être utile, justement, aux animateurs. Hein. Ouais, je crois que c'est... animer, ça veut dire mettre un groupe en mouvement. C'est pas compter. Hein, c'est-à-dire, moi je sais que dans les ateliers d'illettrisme, je ne conseille pas de compter. Et surtout pas avec faire écouter des compteurs. Parce que si on met la barre trop haut, les gens vont se dire, mais j'y arriverai jamais. Hein, il faut que les gens commencent à créer eux-mêmes et que petit à petit, ils trouvent leur qualité dans la création, qu'on les encourage là-dessus. C'est-à-dire que c'est comment on va progresser, qu'à la fin, on puisse faire écouter un compteur. Oui. C'est-à-dire que là, mais si on le fait au préalable, c'est foutu. Parce que quelque part, la barre est trop haute, on n'arrivera jamais. Quoi.
Non, mais au niveau de susciter le plaisir, parce qu'on parle quand même de donner le goût du plaisir de lire tout ça.
Je crois que le plaisir se trouve même dans...
Dans une devinette, c'est vrai que c'est facile.
Mais même dans les contes facétieux, dans le bien dire, bien savoir faire rire, il y a quelques personnes qui ont déjà des compétences préalables. Hein, donc le plaisir du dire, il va être extrêmement vite trouvé, on va dire. Hein. Voilà. Même si c'est un peu hésitant, petit à petit, en voyant... Je dirais que c'est une méthode qui permet de voir très vite, de sentir très vite là où on avance. C'est-à-dire que quelque part, c'est un endroit où on sent très bien que les mots se mettent à couler mieux, que les images qu'on avait en tête se disent mieux, hein, qu'il y a des précisions qui se mettent en place. Voilà. Donc il y a déjà le plaisir d'aller vers quelque chose de plus. Ouais, c'est celui-là qu'il faut viser. C'est pas... société occidentale, on a un peu de mal avec cette notion du brouillon. Le brouillon est un outil absolument essentiel. Et dans tout ce travail-là, c'est l'acceptation du brouillon qui fait avancer. C'est-à-dire que le plus gros du travail qu'on a à faire avec des personnes comme ça, c'est de leur faire accepter que l'imperfection est intéressante. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est parfait que ça sera bien, mais l'imperfection qui a permis de comprendre quelque chose. Et donc c'est ça qu'il faut viser. Hein. Mais si on commence à être critique sur... si on veut mettre la perfection en tant que ligne de mire, on bloque tout immédiatement. Hein. C'est-à-dire que c'est cette notion de valoriser les tentatives, les expériences, les brouillons. Ça, pour moi, c'est vraiment essentiel.
Est-ce que l'éducation nationale est partenaire de votre mouvement ?
L'éducation nationale, ben nous, on est surtout plutôt formateurs de professeurs en général qui viennent chez nous pour se former à ces méthodes. Voilà. Et puis, on a un service éducatif. C'est l'académie qui nous met des heures de professeurs à disposition pour monter des projets en collaboration avec les établissements scolaires. Voilà. Donc ça permet d'avoir une relation privilégiée avec les établissements et travailler avec eux aussi. Donc oui, d'une certaine façon, on est partenaire.
Des instances officielles qui vous soutiennent, qui est-ce qui a créé ce mouvement, ça ?
Le centre en lui-même, ça c'est moi qui l'ai créé, le centre, il y a quelques années.
Voilà. Officiellement, vous êtes soutenu par des...
On est soutenu par l'État, par la région, par le département, voilà. Par l'éducation nationale,
bon,
par
la nécessité, c'est quelque chose qui
bien sûr. Ouais. Non, on ne fait pas n'importe quoi non plus, heureusement. Voilà, en tous les cas, ce qu'on peut en dire. Jusqu'à présent, pas trop. Donc, on a surtout des personnes qui viennent se former, qui sont dans les... C'est-à-dire que nous-mêmes, on intervient peu maintenant, parce qu'on est tellement dans le processus de formation. Moi, j'ai fait beaucoup d'interventions à l'époque avec ATD Carmonde, avec le CRIPACA, etc., pour expérimenter, parce que je crois que pour en parler, c'est bien d'aller voir si ça marche. Hein. Mais après, on sait que ça marche pour soi, on ne sait pas si ça marche pour les autres. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est comment on transmet une expérience, comment on la reformate pour essayer de transmettre quelque chose à des personnes qui ne sont pas vous, quoi, hein, qui vont se frotter autrement. Parce que dans ce type de processus, il n'y a pas un qui va avoir exactement la même... on n'est pas dans de la reproduction, hein, on est dans de l'adaptation de méthode. Donc là, c'est pour ça qu'on avait mis en place cette formation, qui est encore d'ailleurs en expérimentation. Nous, quand on met une formation, on la met en place sur 3 ans.
Et ça se passe
à l'ES. Voilà, donc là, on est sur la deuxième session. Donc on a déjà une première session où il y a des personnes qui sont déjà sur le terrain, qui expérimentent, qui nous envoient des retours, des évaluations. Donc on sait si ça marche ou pas. Hein, voilà. Puis là, on rectifie sur la deuxième, on va encore rectifier sur la troisième, et après la quatrième, on considère qu'on a à peu près les outils pour faire un vrai travail de transmission de la méthode. Parce que tout ça, c'est pareil, hein, ça ne peut pas se caler comme ça, de but en blanc. Il faut qu'il retourne des expériences aussi.
Quelle est votre relation avec le
CEREGER? On se croise de temps en temps, voilà, ils nous connaissent, ils sont venus au CMLO, ils sont venus nous voir. Donc il n'y a pas de problème, on est reconnu comme compétence aussi vis-à-vis de leur côté, mais on est dans un processus quand même assez singulier, voilà, qui intéresse beaucoup des gens, par exemple, comme la PJJ, parce que c'est vrai que la notion de... À Montpellier, sur une conférence, j'avais rencontré un des directeurs de la PJJ qui m'avait fait une petite jeu de mots comme ça, je crois qu'il n'a pas fait exprès, hein. Il m'a dit, oui, ça serait bien que vous y racontiez des contes là-bas, parce que ça les libérerait un peu. Non, mais c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des espaces où il peut y avoir des spécificités de besoins. On ne peut pas non plus l'appliquer tout le temps, c'est pas non plus le remède miracle. Hein. Voilà. Mais il y a des endroits où il y a des possibilités de mettre en place cette méthode et de vraiment amener quelque chose de juste. Quoi.
Excusez-moi, c'est quoi la plus...
Alors c'est la
police.
La police ou la protection?
C'est la protection. Enfin, c'est des personnes qui s'occupent des jeunes, des jeunes, des personnes qui sont incarcérées.
Ah, ouais.
Pour aller vite. C'est beaucoup plus complexe que ça. Plus de questions? Bon, mais c'est très bien alors. Comme on dit dans le conte, on vous rend vos oreilles. Donc là, il n'y a plus de conférence. Il n'y a plus de conférence maintenant jusqu'en octobre. On va faire du repos, hein, ici en tous les cas. Prochain spectacle, si vous avez envie de voir des conteurs, très beau spectacle avec Kamel Guénoum. C'est un très beau, je ne sais pas si c'est une création, mais on avait vu des extraits déjà. Donc Kamel Guénoum, qui est un conteur qui a monté un spectacle.